cette conférence sur le protestantisme et le pentecôtisme en Amérique latine. Cette conférence donc s'insère dans le cycle de conférences consacré à la diversité protestante, commencé cette année en janvier par l'intervention du professeur Frédéric Rognon sur Søren Kierkegaard. Donc c'est un cycle qui aborde non seulement les diverses confessions protestantes, mais aussi tous les aspects du protestantisme, donc les aspects culturels. On a eu une conférence sur Gide, mais aussi la philosophie des auteurs protestants comme Søren Kierkegaard, je viens de le dire. Et ce soir, nous abordons donc une question cruciale, il me semble, dans les pays de l'hémisphère sud, mais une question cruciale aussi sur le continent européen, avec le développement des mouvements émergents, comme le mouvement pentecôtiste, qui brouille les cartes traditionnelles du protestantisme dans l'hémisphère sud et qui les brouille aussi dans l'hémisphère nord. Alors nous sommes très heureux de recevoir ce soir Jean-Pierre Bastian. Je le remercie, au nom de toute l'équipe de la librairie, d'avoir accepté l'invitation pour cette conférence. Jean-Pierre Bastian est professeur de sociologie des religions à l'université de Strasbourg, l'université Marc Bloch, il me semble.
C'était jusqu'à 2 ans.
Ah voilà, donc
maintenant, c'est l'université de Strasbourg, tout court.
Donc c'est l'université de Strasbourg, tout court. Voilà, donc nous allons les laisser nous présenter ce sujet jusqu'à à peu près 7h30, aux environs de 7h30. Ensuite, eh bien, je vous propose d'avoir un débat. Vous pourrez librement poser vos questions et puis approfondir ce thème qui aura été développé pendant les quelques 45 minutes qui sont devant nous. Je vous laisse la parole.
Merci Franck Méloir. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver à Alès et je remercie bien entendu la librairie Jean Calvin pour cette invitation. Mais je vous dirais que je suis très heureux d'être à Alès pour 3 raisons que je vais évoquer qui m'attachent à votre ville. La première, c'est que j'ai eu la grande surprise d'y naître il y a fort longtemps à la maison de santé protestante. Aujourd'hui, fondation, etc. Deuxième événement majeur dans mon existence, ça a été le fait que j'y étais opéré. C'est la seule opération que j'ai vécue, de l'appendicite à l'âge de 6 ans, dans la même maison de santé protestante. Et troisième moment émouvant pour qui que ce soit, mais surtout pour moi, c'est que d'abord j'ai étudié au lycée Jean-Baptiste Dumas, et donc j'ai eu l'occasion de passer le bac à Alès, et heureusement de le réussir. Ce qui m'amenait à m'intéresser après à une carrière universitaire par la suite. Donc voilà 3, vous voyez, moments forts qui m'attachent à votre ville et qui m'attachent aux Cévennes aussi, où j'ai eu l'occasion de passer ma jeunesse, à Saint-Jean-du-Yard en particulier. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui nous amène bien loin d'Alès, et bien loin des réalités cévenoles et françaises. C'est l'approche d'un continent, l'Amérique latine, enfin une partie du continent américain. Je ne parle pas d'Amérique du Sud, mais d'Amérique latine. Alors peut-être on peut monter la carte, parce que l'Amérique latine va du sud du Rio Bravo, vous voyez, au Mexique, jusqu'à la Patagonie, en passant par l'Amérique centrale. Mais n'oublions pas les îles des Antilles qui s'y rattachent. C'est l'espace colonial portugais et espagnol, n'est-ce pas, qui aujourd'hui correspond à ce que nous entendons par Amérique latine. Donc le vocable Amérique du Sud ne peut recouvrir qu'une partie de l'Amérique latine et nous allons aborder le phénomène religieux dans l'ensemble de la région latino-américaine. Et en particulier, mon propos, c'est de vous montrer la mutation religieuse que vit actuellement l'Amérique latine de manière tout à fait spectaculaire. Alors, si vous pouvez remettre le plan de mon exposé. Mon plan d'exposé apparaît là. Et bien entendu, je vais d'abord essayer de souligner combien cet espace sociopolitique est homogène. Il est homogène pourquoi ? Non seulement par la langue, les langues, l'espagnol et le portugais, et les formes de domination coloniale qui ont duré depuis 1492 jusque dans les années 1810 à 1825, lors des indépendances qui nous conduisent aux 20 Amériques latines d'aujourd'hui, c'est-à-dire les 20 États qui constituent cet espace aujourd'hui peuplé de républiques, cet espace sociopolitique est homogène en grande partie parce que les rythmes de civilisation sont identiques dans toute la région, c'est-à-dire les rythmes historiques. En gros, je viens de signaler un premier rythme qui est la période coloniale, qui s'achève vers 1810-1825, selon les États, qui naissent des indépendances des colonies espagnoles et portugaises, avec l'exception de Porto Rico. L'évolution libérale qui amène les États-nations qui viennent de se constituer à passer de régimes, disons, dictatoriaux et autoritaires à des modes de domination qui sont plutôt liés aux principes libéraux. Ce sont des constitutions libérales qui vont s'imposer par les armes, des révolutions triomphantes libérales, donc, et des constitutions libérales qui incluent les grands principes libéraux, les libertés d'association, les libertés de religion, de culte, les libertés d'expression, les libertés d'association, enfin toutes les libertés que nous connaissons qui sont identiques à celles que nous avons en France. Sur le papier, bien entendu, parce que pour qu'on passe du système légal juridique à une réalité démocratique, évidemment, ceci prendra énormément de temps, de telle manière qu'après ces mouvements de révolution ou de réforme, d'ailleurs on les appelle des réformes libérales, on verra ces États retomber dans des types de régimes autoritaires et oligarchiques à partir des années 1880, juste dans les années 1930. Ce passage de dictature et de régimes autoritaires sera dépassé à partir des années 1930 par des régimes de type populiste, par exemple avec des symboles comme Getúlio Vargas, un dirigeant brésilien en particulier, ou Perón, Juan Domingo Perón, le fameux dictateur dictateur homme fort, disons, plutôt de l'Argentine, enfin des régimes populistes qui sont des régimes de négociation où les personnes au pouvoir développent des négociations avec les syndicats, avec les forces populaires, toujours soumises évidemment à l'État, mais qui trouvent là des modes d'arrangement pour améliorer les conditions sociales des masses. Et puis, vous le savez bien, beaucoup d'entre vous en ont conscience sans doute, le retour aux dictatures à partir des années 70, après la révolution cubaine, avec des régimes militaires. Et puis, depuis la chute du mur de Berlin, 1989, donc, on est dans des moments de transition démocratique pour tout l'ensemble de l'Amérique latine, avec des régimes plus ou moins démocratiques, mais disons avec un pluralisme politique qui se manifeste en général dans la plupart des pays, avec quelques exceptions, comme par exemple Venezuela, dont vous connaissez la figure du président Chavez qui est en train chercher à se faire réélire, vous voyez, de manière démocratique, mais en manipulant évidemment les forces sociales. Donc un espace sociopolitique homogène et un espace sociopolitique qui est situé à l'extrême Occident. L'Amérique latine, si on regarde au fond les sociétés qui ont été colonisées par l'Europe, se situe dans une position tout à fait originale parce que c'est la seule périphérie de l'Europe qui ait été réellement assimilée culturellement par la christianisation en particulier et par l'adoption de systèmes de pensée, de croyances donc européens d'origine. Mais c'est un extrême Occident parce que tout ceci est nuancé par des héritages pré-colombiens, avant l'avenue de Christophe Colomb, bien entendu, qui sont enracinés dans les traditions indiennes et aussi africaines, parfois, etc., qui donnent des nuances dans les modes d'expression religieuse en particulier, liées au métissage, liées aux apports, et à une mixité sociale, n'oublions pas, que nous apprenons à découvrir, que nous découvrons maintenant en Europe, puisque nous avons des populations de différents héritages de couleur de peau, d'origine migratoire, etc. Or, l'Amérique latine est née avec ces différences. L'Amérique latine est un continent où le métissage, la différence raciale est quelque chose qui est constitutif des sociétés latino-américaines, mais ceci dans des sociétés qui sont structurées et de manière homogène dès le départ, de manière pyramidale. C'est-à-dire qu'au sommet de la pyramide, vous trouvez toujours le blanc, descendant d'Espagnol, descendant de Portugais, et au bas de la pyramide sociale, vous avez toujours l'Indien, d'une part, et le Noir, de l'autre. Donc des régimes qui ont, en quelque sorte, légitimé l'héritage colonial, et ceci est important pour comprendre pourquoi, aujourd'hui, les processus de conversion au protestantisme engagent essentiellement des Indiens, des Noirs et des Métis, hein, fondamentalement, des Indiens, des Noirs et des Métis, c'est-à-dire les gens du bas de la pyramide sociale qui trouvent dans l'adhésion au nouveau mouvement religieux des moyens de se constituer comme acteurs sociaux, religieux d'abord, mais aussi, nous le verrons, politiques et également culturellement parlant dans un espace où ils sont reconnus. Donc voilà cet espace qui est modelé aussi par une culture catholique dont vous devez comprendre l'imprégnation forte de ces sociétés. Car être mexicain, c'est être guadeloupéen. La Guadeloupe, c'est la Vierge nationale du Mexique. La Vierge nationale du Mexique, c'est l'emblème de la nation depuis l'indépendance. Et donc, tous ceux qui ne sont pas guadeloupéens sont suspects d'être des hérétiques ou d'être des non-mexicains. Et quand on n'est pas guadeloupéen, on ne peut être, historiquement parlant, que hérétique, c'est-à-dire disciple de Moïse, disciple de Mahomet ou disciple de Martin Luther. Historiquement parlant, l'Inquisition a combattu ce qu'elle appelait les sectes de Mahomet, de Moïse et de Martin Luther. Donc, une culture catholique qui imprègne les consciences, qui imprègne l'imaginaire, c'est un catholicisme de dévotion, un catholicisme de pèlerinage, un catholicisme fervent, hein, avec la recherche du miracle, la recherche de l'accomplissement au travers de la médiation des saints, et en particulier des divinités catholiques, en particulier donc les représentations mariales et les Christs. Vous avez tous en tête l'image du Christ roi au-dessus de Rio de Janeiro, n'est-ce pas ? Ce Christ du Corcovado, je ne sais pas si vous le connaissez, vous l'avez vu, qui a les bras comme ceci et qui plane au-dessus de la ville, en fait, c'est le Christ du Brésil. La patronne du Brésil n'est pas le Christ du Corcovado, c'est Notre-Dame Aparecida, qui est une Vierge noire, identique à la Vierge mexicaine, qui est une Vierge métisse, brune, si vous voulez, et auxquelles les populations s'identifient et que les hiérarchies catholiques ont cultivé, justement, dans l'idée de rassembler dans une même famille identitaire, si vous voulez, ces États-nations autour des représentations mariales ou christiques, etc. Donc, force de ce catholicisme, de telle manière qu'on peut parler d'un national-catholicisme. Un national-catholicisme qui est donc structurant des identités, d'abord, mais aussi un national-catholicisme qui est structurant des rapports Église-État, dans la mesure où les États latino-américains auront toujours énormément de difficultés à laïciser la société. Ce que nous avons fait en France, eh bien, en Amérique latine, c'est pratiquement impossible. On n'est pas dans les sociétés laïcisées, n'est-ce pas ? En dépit des constitutions libérales qui ont imposé, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, la séparation entre l'Église et l'État, dans tous les pays, les constitutions séparent le religieux et le politique, mais l'Église catholique reste la grande force sociale et les États-nations n'ont eu que deux possibilités, soit d'affronter l'Église et dans ce cas-là de s'aliéner les masses, soit de concilier l'Église et d'assurer leur légitimité et leur pouvoir dictatorial en particulier. Donc ce national-catholicisme est extrêmement présent encore aujourd'hui, extrêmement fort historiquement, et c'est un élément dont il faut tenir compte aussi pour comprendre pourquoi les choses changent d'un point de vue religieux actuellement en Amérique latine. Troisième point, comme rappel socio-historique, c'est la question protestante, si vous voulez, c'est ainsi qu'il faut la poser, car avant que nous arrivions à ce que nous allons voir comme phénomène de transformation religieuse, le protestantisme est resté plus une interrogation depuis, disons, le début du XVIe siècle, à partir de la troisième décennie du XVIe siècle, jusque dans les années 1960-70, peut-on dire. Une interrogation à cette culture catholique et à ce national-catholicisme qui interdisait en quelque sorte la différence ou qui suspectait la différence d'être une trahison à la nation, une trahison à l'identité, une trahison au peuple de chaque pays. Donc le protestantisme naît comme une question et nous avons des travaux qui nous renvoient d'ailleurs à cette présence de Luther, si vous voulez, mais plutôt par les condamnations qui ont été récurrentes et continues, aussi bien dans les prêches que dans les actes de l'Inquisition, puisqu'il y a des dizaines et des dizaines de corsaires, de pirates, de livres, etc., qui ont été condamnés depuis le XVIe siècle, d'ailleurs, des pirates français, des corsaires français, mais aussi, bien sûr, des Hollandais, des Anglais, etc. Donc, question protestante qui a perduré et qui a repris de la vigueur à partir de la moitié du XIXe siècle, au moment où, précisément, les régimes libéraux vont imposer les principes libéraux et, par conséquent, un des grands principes qui est la séparation de l'Église et de l'État, et surtout l'autre principe qui est la liberté de culte et non plus la simple tolérance religieuse qui avait été caractéristique de la première moitié du XIXe siècle. Donc on passe là, à partir de la moitié du XIXe siècle, là, les premières présences protestantes, peut-on dire, structurées au travers, nous allons le voir, de sociétés missionnaires et de différents acteurs individuels, d'ailleurs, qui sont souvent des étrangers, qui sont toujours d'ailleurs des étrangers, je dirais, qui sont venus comme ingénieurs, comme investisseurs, comme aventuriers, et qui sont d'origine anglo-saxonne ou d'origine hollandaise ou allemande, etc. Ce sont les premiers protestants qui s'installent en Amérique latine en général. Alors, peut-être revenons à l'autre, s'il vous plaît, Franck, à la bibliographie, simplement pour que vous saisissiez que les travaux que je mène et que j'ai menés ne sont pas uniques et que ce que nous allons voir maintenant durant cette conférence, c'est un thème qui intéresse aujourd'hui la recherche en sciences sociales en général, au niveau international, parce que précisément la mutation religieuse est telle que des chercheurs qui, jusque dans les années, disons 1970-80, considéraient que les protestantismes n'étaient que des mouvements sectaires dont il fallait se méfier parce qu'ils étaient l'avant-garde de l'impérialisme nord-américain dans une région qui était secouée par la guerre froide, n'est-ce pas ? Et ils pensaient que ces pentecôtismes, ces protestantismes n'étaient que l'avant-garde tentant de déstabiliser les projets catholiques de rénovation, en particulier liés à la théologie de la libération. Donc ces chercheurs qui avaient adopté ces positions et qui considéraient que c'était évidemment inintéressant d'étudier ces mouvements-là, ont été dépassés par des quantités aujourd'hui de chercheurs en sciences sociales au niveau international qui produisent des travaux très divers sur ce changement religieux global dans toute la région latino-américaine. Alors j'ai cité mes travaux, mais surtout c'est pour vous citer deux ou trois chercheurs qui ont été importants. Vous avez d'abord Christian Lalive d'Épinay, vous voyez, avec son livre en espagnol « Le refuge des masses », et puis son deuxième livre en français « Religion, dynamique sociale et dépendance, les mouvements protestants en Argentine et au Chili ». C'est un des premiers grands travaux, ces deux premiers grands travaux sur le pentecôtisme, précisément, l'irruption du pentecôtisme en Amérique latine. Un autre auteur des pionniers, 67, c'est Emilio Willems, vous voyez, tout au bas, « Followers of the New Faith », les suiveurs de la nouvelle foi, si vous voulez. Changement culturel et émergence du protestantisme au Brésil et au Chili. Là aussi, un chercheur nord-américain, c'est les premiers grands travaux sur les premières grandes recherches, si vous voulez, sur le changement religieux dans la région latino-américaine. Puis, ensuite, je vous cite quelques ouvrages des années 90. Mon collègue anglais David Martin, qui a publié ce livre « Langue de feu, l'explosion du protestantisme », l'explosion, vous voyez, du protestantisme en Amérique latine. David Stoll, un chercheur nord-américain. Est-ce que l'Amérique latine est en train de devenir protestante? Déjà en 90, vous voyez, là aussi. Et puis, des chercheurs français comme Sylvie Pedron-Colomben et une thèse de doctorat parisienne, le pentecôtisme au Guatemala, conversion et identité, 98. Et André Cortan, un Québécois d'origine belge, qui a travaillé le pentecôtisme au Brésil en 95. Donc voilà, ce n'est qu'une indication, mais on a des dizaines et des dizaines de travaux, aussi bien en français qu'en anglais et en espagnol, bien entendu, sur ces mouvements. Alors, on peut revenir sur le plan, si vous le voulez bien, pour poursuivre donc l'analyse de ce phénomène, ou entrer dans l'analyse de ce phénomène, au travers d'une première étape de présence du protestantisme dans la région, par l'irruption de ce qu'on peut appeler les protestantismes historiques ou classiques, qui sont ces protestantismes qui vont s'implanter à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle au travers des sociétés missionnaires. Et ces sociétés missionnaires sont des sociétés missionnaires nord-américaines. Alors, vous les connaissez peut-être, certains d'entre vous, ce sont les sociétés missionnaires presbytériennes, méthodistes, baptistes, anglicanes, congrégationalistes, disciples du Christ, enfin, c'est une dizaine, vingtaine de sociétés qui viennent dans un mouvement missionnaire qui est, disons, lié à un protestantisme de civilisation, c'est-à-dire qui ne dissocie pas l'évangélisation de la transformation de la culture et donc développe des écoles en particulier, développe aussi des services sociaux, des hôpitaux, développe des quantités, des orphelinats, etc., etc., n'est-ce pas, qui viennent donc avec une visée aussi de transformation culturelle des sociétés, non seulement religieuses, dans des dimensions plus larges. Et ces sociétés missionnaires, donc, attirent des populations extrêmement réduites, mais très intéressantes, parce que, comme toujours dans des mouvements d'évangélisation ou des mouvements de transformation sociale, ce ne sont pas les inertes qui s'y intéressent, ce ne sont pas non plus les gens qui sont au sommet du pouvoir, ce sont les gens qui sont entre deux, mais plutôt dans l'entre-deux, le bas de l'entre-deux, c'est-à-dire du côté des classes sociales émergentes ou des classes sociales qui cherchent à conforter des positions nouvelles dans la société ou à trouver des alternatives, en tout cas, dans la société dans laquelle ils se trouvent dominés. Et donc, on a des groupes sociaux très identifiés qui sont en général métis ou blancs et qui s'intéressent donc à adhérer à ces mouvements religieux parce qu'ils sont libéraux eux-mêmes. Et donc, ce sont des minorités libérales qui souvent sont passées par les luttes politiques libérales qui vont être les premiers convertis, si vous voulez, au presbytérianisme, aux baptistes, aux méthodistes et autres mouvements. Et ce protestantisme du milieu du XIXe siècle donc, est un protestantisme évangélique, on peut dire, simple, autour de vérités bibliques partagées, si vous voulez, sans sophistication, mais avec énormément de préoccupations, donc je le disais, sociales. Et ce sont, d'un point de vue sociologique, ce qu'on pourrait appeler des sociétés de pensée, c'est-à-dire des avant-gardes idéologiques dont sont très exemplaires les pasteurs, les instituteurs et d'autres intellectuels populaires qui vont être le front pensant, en quelque sorte, de ce protestantisme qui, au point des idées, est un protestantisme qui adhère à ce qu'on appelle le krausisme. C'est un peu compliqué. C'est un philosophe hégélien de droite qui a été repris en Espagne dans un sens antipositiviste, c'est-à-dire contre la pensée du positivisme français qui voyait le progrès dans la science uniquement. Or, les protestants ont défendu que le progrès ne pouvait pas venir de la science uniquement. Il devait venir de la transformation de l'individu, de l'effort de l'individu, de l'énergie spirituelle que l'individu peut mettre dans les processus sociaux et que, par conséquent, la conversion était un des éléments centraux pour transformer, en quelque sorte, les sociétés latino-américaine de l'intérieur au travers de ces acteurs sociaux qui étaient porteurs donc de messages démocratiques, d'éducation et de progrès en général. Alors ces protestantismes qui sont des sociétés de pensée assez semblables à d'autres sociétés de pensée, c'est-à-dire assez semblables à, par exemple, les sociétés spirites. Le spiritisme, vous ne le connaissez pas peut-être. Personne ne le connaît. Allan Kardec vous dit quelque chose non plus. Pourtant, c'est Hippolyte Rivaille, Allan Kardec, un Français qui a créé un mouvement religieux dans les années 1850 et quelques autour de l'évangile spirit, dialoguant avec les esprits, faisant tourner les tables. Enfin, tout ça est devenu à la mode dans ces années 70-80. Mais donc, en Amérique latine, le spiritisme de ce type-là, qui est un christianisme sans église, il est anticlérical, ce christianisme de Kardec. Pas de prêtre, pas d'intermédiaire, pas de pasteur, simplement des associations d'individus qui donc dialoguent avec les esprits, mais au nom de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, donc, on a ce type-là de société avec des églises spirites qui naissent au Brésil, au Mexique, etc., qui existent encore au Brésil, entre autres. Et puis, ces associations modernes, disons, qui rompent avec des associations corporatives, qui sont celles qui sont héritées de la colonie, eh bien, ces sociétés de pensée égalitaires, de frères et de sœurs, quand il y en a, sont identiques dans les loges franc-maçonnes. Les loges franc-maçonnes sont des sociétés de pensée aussi. Mais aussi les sociétés d'aide mutuelle, c'est-à-dire les premiers syndicats, les pré-syndicats, là où les ouvriers se rassemblent dans des fraternités, si vous voulez, souvent inspirées d'ailleurs par une sorte de pré-socialisme chrétien. Donc on a ce front de micro-sociétés, d'avant-garde idéologique, et où le protestantisme est en dialogue avec ces autres sociétés. Il n'est pas isolé. Donc souvent, vous avez des pasteurs qui sont francs-maçons. La plupart des pasteurs sont francs-maçons. Et parfois, vous en avez qui dérivent vers le spiritisme, ou des spirites qui deviennent protestants. Vous voyez, c'est un front où ces forces-là sont toutes unies, d'une certaine manière, par leur anticatholicisme et leur opposition aux régimes dictatoriaux et aux régimes qui maintiennent les structures héritées de la colonisation. Malheureusement, alors, ces protestantismes sont très importants d'un point de vue historique. J'ai moi-même développé une thèse de doctorat autour de l'influence et la participation des protestantismes historiques à la Révolution mexicaine. Ils ont été déterminants dans le processus révolutionnaire de 1910-1911. Donc ce sont des forces sociales, ces sociétés de pensée, des forces sociales minoritaires, ultra-minoritaires, mais qui néanmoins contribuent à des mouvements de changement social, par exemple, je l'ai dit au Mexique, mais aussi ailleurs, on le retrouve à différents moments, au Pérou, au Brésil et en Argentine, par exemple, mais aussi à Cuba, lors de l'indépendance. Alors, ces avant-gardes protestantes, au fond, je vous l'ai dit, échouent en grande partie. C'est-à-dire qu'elles vont, numériquement, elles ne vont jamais réussir à convertir plus de 1% des populations latino-américaines. Dans les années 1950, si vous voulez, entre 0,5% et 1% des populations étaient passées au protestantisme. C'est-à-dire, c'était rien du tout. Zéro. Hein, zéro au niveau quantitatif par pays. Et puis, échec aussi parce que leur articulation, si vous voulez, du spirituel et du temporel, ou des programmes sociaux, eh bien, avait été repris par les États révolutionnaires ou par les États progressistes, et donc, du coup, il n'apportait plus rien de nouveau, en quelque sorte. Et de plus, le libéralisme, qui était la philosophie ou la philosophie politique qu'ils inspiraient, était combattu à partir des années 50-60 par de nouvelles perspectives de changement articulées au marxisme, articulées à la révolution socialiste, dont Fidel Castro sera évidemment le symbole, n'est-ce pas, et Cuba le symbole, à partir de 1959. Rappelons cette date très importante. Et par conséquent, dans les années 50, ces protestantismes historiques étaient en perte de vitesse. Ils n'intéressaient plus personne, si ce n'est les familles libérales qui s'étaient converties, les noyaux dans lesquels ils se trouvaient, ou par les services qu'ils offraient, en grande partie éducatifs, dans leurs écoles secondaires ou dans leurs écoles parfois de type lycée ou université, par exemple au Brésil. Donc, par ces services-là et la qualité des services qu'ils offraient. Mais en gros, il n'y avait aucun futur pour le protestantisme en Amérique latine. Alors, que s'est-il passé pour que les choses changent? Eh bien, ceci a changé avec l'arrivée de nouveaux acteurs religieux que sont les pentecôtistes. J'imagine qu'ici, certains connaissent le pentecôtisme. Est-ce que quelqu'un sait quand ce mouvement religieux a démarré, historiquement parlant? Une date, par exemple? Personne? Eh bien, 1906, début du XXe siècle, où, aux États-Unis, à Los Angeles, un réveil typique des traditions religieuses nord-américaines, où les renouveaux, les réveils religieux sont liés à un héritage théologique arminien, méthodiste, qui pense que l'individu peut se régénérer par une sanctification, hein, par sanctification. Et donc ceci, cet héritage méthodiste, wesleyen, arminien, comme je le dis, d'Arminius, un théologien hollandais du XVIIe siècle, eh bien cet héritage connaît énormément de développement, je peux pas m'y attarder maintenant, aux États-Unis au XIXe siècle. Mais au début du XXe siècle, un ultime soubresaut de ces réveils, c'est le pentecôtisme. Or, le pentecôtisme, qu'est-ce que c'est le pentecôtisme? Eh bien, c'est un type de protestantisme, mais plus qu'un protestantisme, à ma manière de voir, c'est un christianisme de l'émotion. C'est un christianisme de l'émotion qui se fonde, au fond, d'un point de vue sociologique. Je ne pars pas du théologique, parce que théologiquement parlant, il renvoie au livre, au chapitre 2 des Actes, il renvoie à l'irruption de l'Esprit sur la communauté de Jérusalem au temps du Christ, n'est-ce pas, juste après la mort du Christ. Donc voilà, d'un point de vue théologique, c'est là que se fonde l'idée du baptême de l'Esprit. Mais ces mouvements pentecôtistes se déterminent en quelque sorte autour de trois pratiques fondamentales qui les distinguent sans doute des autres mouvements religieux, catholiques, protestants, historiquement parlant, j'entends. Quelles sont ces trois pratiques? Eh bien, la première, c'est la glossolalie, c'est-à-dire le parler en langue, évidemment pas en anglais, ni en français, ni en portugais, ni en espagnol, mais en langue, on ne sait pas lesquelles, un brouhaha linguistique, d'apparence linguistique, mais qui serait le signe de la pénétration de l'esprit dans l'individu et dans le groupe. Deuxième élément, c'est la thaumaturgie, c'est-à-dire les démarches de guérison, appelées guérison divine, vieil héritage religieux. La religion a toujours été du côté du corps et du côté de la rédemption du corps, du miracle. Et donc, la guérison, la thaumaturgie, comme deuxième pratique fondamentale. La troisième, c'est l'exorcisme. L'exorcisme, c'est-à-dire la lutte contre les démons, la volonté d'éradiquer les démons pour que triomphe précisément l'Esprit, le Saint-Esprit, de toute emprise démoniaque sur l'individu ou sur la société. Alors, voilà, brièvement résumé ce que peut être le pentecôtisme, mais c'est surtout, le pentecôtisme est un mouvement religieux extrêmement souple, extrêmement malléable, parce que c'est un mouvement religieux sans théologie, sans dogmaticien, sans intellectuel, un mouvement religieux qui naît du sentir, du sentiment, de l'émotion, et qui n'a pas besoin de passer par des réflexions théologiques du type Jean Calvin, du type Martin Luther, du type Karl Barth, de type Ratzinger, vous voyez, enfin, etc., tous ces grands théologiens qui marquent l'histoire du christianisme. Donc, c'est un mouvement, je dirais, populaire, oral, pas écrit, fondamentalement oral, et donc qui a la capacité de s'adapter aux cultures dans lesquelles il pénètre. Aujourd'hui, c'est sans doute la force la plus importante d'expansion du christianisme dans le monde, non seulement en Amérique latine, mais aussi en Afrique, en Asie. Le pentecôtisme est un mouvement donc qui est un christianisme de l'émotion plus qu'un protestantisme qui s'est modelé aux différentes traditions religieuses des pays dans lesquels il pénètre. Je n'ai pas le temps de développer ceci, il faudrait le montrer pour l'Afrique, il faudrait le montrer pour l'Asie. Mais pour l'Amérique latine, si vous voulez, il est clair que ce mouvement-là qui très tôt va s'implanter en Amérique latine. Il s'implante à partir des années 1910. Vous voyez, c'est très vite, très tôt. La première église pentecôtiste latino-américaine surgit au Chili et dans un port qui s'appelle Valparaíso. Valparaiso, hein, si on veut le traduire en français. Valparaíso, c'est un port de la côte chilienne. Et là, en 1910, dans une église méthodiste, donc historiquement méthodiste, eh bien, naît un mouvement de ce type, glossolal et de thaumaturgique. Et donc, les gens se convertissent et la première église naît, là, dans ce port chilien. Mais pratiquement au même moment, on a des églises semblables qui naissent au Mexique, au Brésil. Je n'ai pas le temps de raconter cette dispersion, mais ce sont des atomes de pentecôtisme. Ce sont des petites communautés éparses de gens très humbles, d'analphabètes, d'indiens, de métis ou de noirs, mais qui sont des migrants, des gens qui sont arrivés des campagnes vers les grandes villes ou vers les villes naissantes, et qui sont donc des déracinés. Le pentecôtisme en Amérique latine naît comme une religion de déracinés, de migrants, de pauvres, de marginaux, d'opprimés, etc., etc. C'est tellement une religion de pauvres, de marginalisés, etc., que personne ne voit ce mouvement se développer. D'ailleurs, il se développe très lentement, il faut le dire. Très lentement, durant la première moitié du XXe siècle. Il est invisible, c'est une religion invisible. Le protestantisme historique est visible parce qu'il a des intellectuels, parce qu'il a des collèges, parce qu'il a des universités, parce qu'il a marqué certains pays par les transformations qu'il a opérées. Mais le pentecôtisme est un mouvement dénigré, même par les protestants historiques, qui voient là que des mouvements d'indiens, comme ils disent, ces métis, qui voient là que des mouvements d'indiens. Et donc, ce pentecôtisme, petit à petit, commence à intéresser des cercles toujours plus étendus, mais il va fonctionner, comme le disait le titre du livre de Christian, la Livre d'Épinay, que j'ai cité tout à l'heure en espagnol, n'est-ce pas, « Refugio de las masas », le refuge des masses, il va servir comme refuge des masses. Le pentecôtisme est un espace de refuge pour ces populations opprimées. C'est un espace de pacification dans une société extrêmement violente où ces secteurs sociaux dominés subissent une violence énorme. Quel type de violence? Eh bien, aujourd'hui, je pourrais l'illustrer, la violence que ces pentecôtistes ont vécue dans leur société, c'est la violence de la drogue, c'est la violence des mafias, c'est la violence du sexe, la prostitution, c'est la violence sur la femme, c'est toutes sortes de violences. C'est la violence d'être analphabète et de rester analphabète dans un monde où ceux qui ont le pouvoir sont ceux qui savent parler et écrire. Hein, c'est toute cette violence-là qui est derrière le pentecôtisme, subie. Or, dans ces sociétés religieuses pentecôtistes, ces marginaux, ces délaissés, trouvent, au travers de l'esprit, une sorte de régénération personnelle, mais aussi collective. Parce que les mouvements pentecôtistes sont des acteurs collectifs fondamentalement. Ce n'est pas qu'une initiative individuelle en Amérique latine. Ce sont des groupes, d'abord, ce sont des acteurs collectifs qui sont des paroisses, qui sont des groupes, des églises, etc. Et donc, ce sont des acteurs collectifs qui développent des formes de solidarité, des formes d'entraide, des formes d'assistance, etc. Mais ce ne sont pas des mouvements identiques au protestantisme historique qui visaient à transformer la culture. Pourquoi ? Parce que les pentecôtistes n'ont pas d'intellectuels, je dis, n'ont pas d'école, ils ne visent pas à faire des écoles. Ils visent à créer des sociétés religieuses de régénérer. Et ces mouvements-là vont croître de manière spectaculaire à partir des années 1950-1960. Alors évidemment, d'un point de vue sociologique, c'est pas l'Esprit Saint qui fait croître les mouvements. Ce qui fait croître les mouvements, ce sont les conditions sociales. D'un point de vue sociologique, j'entends. Alors, quelles sont les conditions sociales qui... c'est ce que je voudrais essayer de vous montrer. Quelles sont les causes de la mutation? Mais avant de rentrer dans les causes, je voudrais que Franck Belloir nous montre le tableau que j'ai transplanté, n'est-ce pas? Ce tableau-là, vous avez de la peine à le lire, n'est-ce pas? Mais on va essayer de le lire quand même un petit peu parce que c'est le tableau de la situation religieuse du Brésil aujourd'hui, 2010. Ce sont les statistiques religieuses de l'État brésilien. à partir d'une enquête nationale qui est menée tous les 10 ans. Et là, vous avez la situation religieuse du plus grand pays de l'Amérique latine aujourd'hui, du plus grand pays d'un point de vue étendu et d'un point de vue population. L'Amérique latine, c'est 500 millions d'habitants à peu près, 500 millions aujourd'hui. Et là, vous voyez la population du Brésil, totale, là-haut, à gauche, totale, c'est 190 millions 114 000 ou 154 799, si je ne me trompe pas. Mais enfin, c'est 190 millions d'habitants de Brésil aujourd'hui. 190 millions. Donc vous voyez, on est pratiquement sur un peu plus du tiers de l'Amérique latine. Alors, dans ce pays-là, combien est-ce qu'il y a de catholiques? Alors, le nombre de catholiques apparaît au-dessous. Catholiques, apostoliques, romains, parce qu'il y a d'autres catholiques. 123 millions de catholiques. Bon, d'accord, c'est beaucoup. Mais vous voyez une différence entre 123 et 190. Il y a une différence de 67 millions. Qui sont ces 67 millions? Que font-ils? Est-ce que ce sont des mécréants? Est-ce que ce sont des non-catholiques, mais qui ne s'intéressent à rien d'autre que, disons, à la consommation? Non. Ce sont des gens qui ont tous des options religieuses ou pas. Mais nous allons voir lesquels. Le premier groupe qui vient... Alors après, vous avez des groupes minoritaires catholiques. Hein, l'Église catholique apostolique brésilienne, 560 000 membres. Les catholiques orthodoxes, 137 000. Et après viennent les évangéliques. Combien y en a-t-il? 42 millions. Vous imaginez ça? 42 millions d'évangéliques. Et quand on parle des évangéliques, c'est les évangéliques et les pentecôtistes. Parce que quand vous voyez après la liste des évangéliques, vous arrivez tout de suite à les évangéliques d'origine pentecôtiste. Vous voyez ici. Et c'est 25 millions. 25 millions. Donc déjà 25 millions de pentecôtistes parmi ces 42 millions. Et au-dessous, vous avez les évangéliques d'origine... Église évangélique d'origine pentecôtiste, 5 millions. Donc il y a 5 millions plus 25, c'est 30 millions de pentecôtistes sur les 42 millions d'évangéliques. Mais les autres églises évangéliques, qui s'appellent luthériennes, presbytériennes, méthodistes, baptistes, congrégationalistes, vous voyez les nombres après des membres, hein, tels qu'ils apparaissent, sont des églises qui, elles-mêmes, sont pentecôtisées, souvent. C'est-à-dire que les pratiques pentecôtistes, aujourd'hui, ont pénétré ces églises, qui, pour survivre de la concurrence dans laquelle ils se trouvent face au pentecôtisme, ont dû se pentecôtiser, c'est-à-dire développer des pratiques glossolales, thaumaturges et exorcistes, parfois. Alors, vous voyez l'importance de ces mouvements-là, hein, d'abord, parce qu'ensuite, passons à la deuxième page, là. Ensuite, vous voyez les autres mouvements religieux. C'est-à-dire que si vous enlevez, si vous ajoutez 123 millions plus 42 millions, 123 millions de catholiques plus 42 millions d'évangélico-pentecôtistes, on arrive à 165 millions, n'est-ce pas? De 165 à 190, il reste 25 millions. Or, ces 25 millions, ils se distribuent en 100 religions, 14 millions. 500 000. C'est-à-dire, sur les 25 millions, il y a 14 millions et demi, 15 millions, qui se disent sans religion. Mais là encore, que veut dire sans religion? Il faut les interroger. Hein. Mais disons qu'ils ne disent pas dans le recensement qu'ils adhèrent à une religion quelconque. On ne va pas s'interroger là-dessus, mais en tout cas, c'est intéressant. Ce qui veut dire que des 25 millions qui restaient, il y en a plus que 10 qui sont d'autres religions. C'est-à-dire, c'est rien du tout. 10 millions qui sont quoi? Eh bien, qui sont bouddhistes. Vous voyez, des bouddhistes, là, vous en avez 243 000. Des hindouistes, 5 000. Des juifs, 103 000. Etc. Le candomblé, qui est la religion afro-cubaine, le candomblé, c'est 167 000. L'Ubanda, qui est une religion afro-cubaine, 403 000. C'est-à-dire rien du tout. Par rapport aux... Donc, quand je parle de la... D'une part, ces informations vous rendent compte d'une chose. C'est l'importance numérique de la transformation religieuse qui est en train de se passer en Amérique latine, avec le groupe évangélico-pentecôtiste qui est de à peu près 22% de la population du Brésil. Et par ailleurs, dans cette transformation-là, il y a bien sûr une pluralité religieuse qui s'est instaurée dans l'Amérique latine. Ça, c'est un fait nouveau, avec des groupes divers. Mais le changement, le moteur du changement, si vous voulez, ce sont les évangélico-pentecôtistes. Le reste, ce sont des acteurs religieux marginaux par rapport à ce mouvement énorme que représente donc la pentecôtisation, pourrions-nous dire, de l'Amérique latine. Voilà, je voulais que vous voyez ceci parce que c'est assez impactant pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe au Brésil se passe dans toute la région latino-américaine, sans exception, et avec des pics encore plus importants en Amérique centrale, par exemple au Guatemala, au Salvador, dans ces petits pays d'Amérique centrale, où on arrive à 30% de la population qui est évangélico-pentecôtiste. Mais il y a d'autres pays où c'est moins. Au Mexique, on estime à 12% la moyenne. Mais là encore, il faudrait faire une sociographie de ces adhésions. Et on verrait des régions où tout d'un coup, la majorité de la population est pentecôtiste ou évangélique. En particulier dans des sociétés indiennes, des groupes ethniques. J'ai eu l'occasion de mener des recherches au Chiapas, dans le sud du Mexique. Vous situez le Chiapas, peut-être, où il y a eu la fameuse révolution sandiniste, il n'y a pas très longtemps, il y a en 94. Eh bien, cet État du sud du Mexique, qui est grand comme la France, eh bien, est un État où des communes indiennes sont pratiquement entièrement passées aux non-catholiques. Elles ne sont plus catholiques. Sur 110, c'est une trentaine de communes qui sont passées à l'hégémonie non-catholique. Donc ce sont des transformations qui s'accentuent dans certaines régions, et surtout qui s'accentuent, par exemple, dans les périphéries des villes, des grandes villes. Parce que, je vous l'ai dit, les populations qui adhèrent au pentecôtisme sont les déracinés. Ce sont les migrants, toujours, encore, et qui sont dans les bidonvilles, dans les favelles du Brésil, dans les cités perdues du Pérou, etc. Et donc, revenons au plan, peut-être, pour suivre le propos. Donc, cette émergence des nouveaux acteurs pentecôtistes, elle date des années 70-80 et va croissant. Il y a une sorte de courbe croissante d'adhésion. Maintenant, ce pentecôtisme ou ces pentecôtismes, c'est un monde, parce qu'il y a quelques grandes, aujourd'hui, sociétés pentecôtistes, églises pentecôtistes. Par exemple, au Brésil, les assemblées de Dieu, c'est 10 millions de membres. C'est énorme. Mais en toutes sortes d'églises, rassemblées par région, etc. Une autre église, l'Église universelle du Royaume de Dieu, au Brésil aussi, créée en 1977, celle-là, très récemment, c'est 3 millions de membres au Brésil et dans le monde. Parce que ces mouvements-là sont devenus exportateurs de leurs croyances. Ou au Portugal, bien sûr, mais aussi, par exemple, au Mozambique, par exemple, dans les pays lusophones d'Afrique, etc. Mais aussi en Afrique du Sud, lusophone qui parle portugais. Donc, ce sont des acteurs religieux nouveaux qui sont en expansion, non seulement dans leur propre pays, mais international, souvent. Ce sont de grandes organisations religieuses, millionnaires, en membres, parfois multimillionnaires en dollars. Les dirigeants ne sont plus des pauvres, ce sont des entrepreneurs, ce sont des entreprises religieuses qu'ils ont créées. Et par ailleurs, ce sont des centaines de petites sociétés religieuses qui rassemblent depuis la communauté autour d'un pasteur qui a commencé dans la rue à prêcher avec 30 membres derrière lui, à des groupes qui rassemblent entre 1 000 et 100 000 membres, vous voyez, des groupes moyens. Donc c'est un mouvement qui est extrêmement atomisé en termes de structure. Alors vous me direz, mais comment ce mouvement peut-il avoir une force sociale? Eh bien, parce que les pasteurs se regroupent en groupes d'intérêt, en groupes de défense. Et ce n'est pas les pasteurs, ce sont les dirigeants laïcs, etc. Donc ceci se traduit par une force sociale. Alors les causes de la mutation. Les causes de la mutation, d'abord, c'est la déstructuration des sociétés traditionnelles latino-américaines. C'est-à-dire, c'est l'émigration des paysans vers les villes à partir des années 50, les paysans expulsés des sociétés rurales par la pénétration de l'économie de marché et donc par la destruction des économies traditionnelles qui étaient basées sur le troc, sur l'échange non monétarisé. Et par ailleurs, deuxième élément qui est très important aussi, qu'il faut toujours associer, c'est la croissance démographique. Ce sont des pays qui sont en croissance démographique énorme. La population croît à toute vitesse. Et par conséquent, les campagnes ne peuvent plus alimenter l'excédent de population qui émigre vers les villes et qui se retrouve dans les bidonvilles. Donc ça, c'est le facteur déterminant de la création de migrants, de déracinés et de pauvres, qui sont des millions en Amérique latine. Deuxième cause, c'est une cause religieuse, celle-là, que je mettrai du côté du catholicisme, dans le sens où le catholicisme est une religion qui, d'une certaine manière, d'une part, empêche les femmes l'accès au sacerdoce, vous le savez très bien, ceci, mais surtout qui, en Amérique latine, empêche que les Indiens, les Noirs, accèdent au sacerdoce. Les prêtres, en général, en Amérique latine, sont des Blancs ou des Métis. D'une part, parce que le prêtre doit être éduqué, donc il est éduqué d'un point de vue par les séminaires, etc., et donc les gens, les marginaux, n'ont pas accès à ce type d'éducation. Et puis d'autre part, parce que le Saint-Siège, le Vatican, s'est toujours méfié des sorciers, des chamans, des pratiques religieuses populaires, afro-américaines et autres, n'est-ce pas ? Et donc, n'a jamais voulu créer des prêtres ou légitimer les prêtres indiens, noirs, africains, enfin, etc. Ce catholicisme également est un catholicisme hiérarchique, structuré, pyramidal, sans représentation réelle. Tout vient d'en haut, décidé d'en haut vers le bas. Et par conséquent, évidemment, quand vous voyez les élites catholiques, ce sont des élites blanches. Et les évêques sont blancs. Les archevêques sont encore plus blancs que les blancs, etc. Néanmoins, le catholicisme se base sur les masses, hein, qui sont celles qui courent après les miracles, courent après les représentations mariales, etc. Mais ce catholicisme, donc, empêche, en quelque sorte, la mobilité religieuse. Et donc le pentecôtisme, lui, fait le contraire. Il offre la mobilité. Il permet à des Indiens, des Noirs et des Métis de devenir des leaders religieux du jour au lendemain. De telle manière que j'ai eu l'image toujours pour vous illustrer ceci. En Amérique latine, pour un pauvre, pour un fils, une fille d'origine modeste, le seul moyen de s'en sortir, c'est pas l'université. Parce qu'à l'université, ils seront toujours de deuxième classe ou troisième classe. Parce qu'ils iront dans de mauvaises écoles, dans de mauvaises universités. Ils auront des titres qui ne leur servent à rien, en sciences sociales en particulier. Et donc, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'être footballeur. Et du coup, ils feront les 14 millions de notre ami là, qui arrive, Abraham Mijovic. Voilà, footballeur, ça attire les jeunes en Amérique latine. Pelé, le Brésilien. Pour les femmes, c'est d'être mannequin. Ou prostituée, hein, si c'est pas ça, hein, pour s'en sortir, j'entends. Et puis, troisième option, c'est d'être prédicateur évangélique, pentecôtiste. Or, évidemment, être mannequin, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent l'être. Prostituée, beaucoup, mais beaucoup ne veulent pas, évidemment, se lancer dans ce type d'activité. Et donc, vous comprenez bien que, également footballeur, il faut être très habile. Hein, et ce n'est pas les masses qui peuvent être footballeurs. En revanche, tout un chacun peut être prophète. Tout un chacun peut être dirigeant religieux. S'il a du charisme, s'il a de la force, s'il convoque l'esprit, s'il fait parler les gens, s'il les mobilise. Et ça, on voit émerger donc des dizaines et des dizaines de jeunes. C'est pourquoi le pentecôtisme est une force sociale, parce que, fondamentalement, il attire les jeunes. Le contraire de ce que nous avons ici dans nos églises, c'est des vieux. Les églises sont en train de fermer. Tout est en train de ficher le camp, hein, numériquement parlant, j'entends. Mais en Amérique latine, c'est le contraire. Ce sont des églises de jeunes et de masses de jeunes. Vous serez toujours impressionné de voir des centaines de jeunes dans ce type de société, d'activité, dans des stades, dans des églises, etc. Donc, catholicisme, deuxième facteur. Troisième facteur, c'est le facteur politique. De nouveau, l'Église est pyramidale, ne laisse pas d'espace à la mobilité sociale. Les systèmes politiques en font de même. Les partis sont aux mains des élites. Le peuple n'a pas accès aux décisions. Les Indiens et les Noirs sont marginalisés, etc. Et le pentecôtisme est, on va le voir, un moyen d'accéder au pouvoir politique. Paradoxal. Et c'est là-dessus que je vais terminer pour qu'on ait le temps de discuter. Parce que j'ai pas le temps de développer, si vous voulez, les points 3 que je voulais vous montrer autour de comment fonctionne le pentecôtisme dans les milieux indiens ethniques hein, qui se convertissent massivement là, au pentecôtisme. Mais je vais passer au point 6, les effets politiques de la pluralité religieuse. Eh bien, de tout ceci, de ce mouvement de masse de conversion au pentecôtisme, est arrivé quelque chose que personne n'attendait. C'est-à-dire que tout le monde croyait que le pentecôtisme, en effet, dans les années 70, était le refuge des masses. C'est-à-dire un espace quasiment hors société, hein, où les gens, une société de substitution, une société de protection. Et puis, dans les années 70-80, les choses ont changé complètement. À la fin des années 80, avec la chute du mur de Berlin en particulier, et la fin des dictatures militaires. Et on a vu les régimes politiques démocratiques se mettre en place avec des assemblées constituantes, avec des parlements, avec des systèmes politiques. Et à partir des années 90, ont émergé des partis politiques évangéliques, confessionnels. Et on a vu arriver au pouvoir ou des candidats aux élections présidentielles des pentecôtistes. Incroyable. Parce que tout le monde pensait que l'avenir de, de l'Amérique latine, c'était la révolution. C'était le socialisme. C'était Cuba. Et ce qui se passe, donc, c'est l'émergence de nouveaux acteurs. Alors, il reste des socialistes, reste, etc. Mais de nouveaux acteurs confessionnels, pentecôtistes et évangéliques. Alors, une formule aussi pour vous montrer, au fond, la surprise qu'a été le pentecôtisme, c'est que, vous le savez, l'Église catholique, avec le Conseil des évêques latino-américains réunis à Puebla, au Mexique, en 1979, avait fait l'option préférentielle pour les pauvres. C'est une formule qui a synthétisé, au fond, la réponse de l'Église à la pauvreté, à la misère et à la révolution, aux révolutions socialistes. L'Église a fait l'option préférentielle pour les pauvres. Et ceci a été la formule de la théologie de la libération, fameuse théologie dont vous en avez peut-être parlé, mais qui aujourd'hui est morte. En revanche, les pauvres, eux, ont fait l'option préférentielle pour le pentecôtisme. Je trouve que ça illustre assez bien ce qui vient de se passer en Amérique latine au cours de ces 30 dernières années. L'Église catholique a fait l'option préférentielle pour les pauvres, en espérant les sauver de leur pauvreté par l'évangélisation et la conscientisation, comme il disait. Mais les pauvres n'ont pas cru dans ces évêques blancs, ces archevêques et ces théologiens de la libération qui étaient tous des intellectuels venus des classes moyennes. Ils ont cherché leur propre leader, leur propre dirigeant, leur propre pauvre, en quelque sorte, capable de leur inspirer une énergie. Et donc, c'est ce qui s'est passé à partir des 90. À tel point que, je vous l'ai dit, le pentecôtisme, aujourd'hui, est une force politique. Pas fondamentale, secondaire, mais politique. Alors, pour vous citer quelques cas, je vais essayer d'accélérer les choses. En 91, vous avez le président du Guatemala, qui s'appelle Serrano Elias, est un prophète pentecôtiste qui se fait élire sur la force du pentecôtisme comme président de la République. C'est le premier président de la République pentecôtiste d'Amérique latine. En 90, au Pérou, un candidat aux élections s'appelle M. Fujimori. Je n'ai pas entendu parler de M. Fujimori. Son nom l'indique, c'est un japonais d'origine, mais né au Pérou, qui s'oppose à un autre candidat, qui est le candidat de la droite, et qui est un grand intellectuel, que vous connaissez aussi, qui s'appelle M. Vargas Llosa, parce qu'il a été prix Nobel de littérature, donc, cette année. Vargas Llosa. Or, tout le monde pense que Vargas Llosa va gagner les élections, parce qu'il a l'appui de l'Église catholique, bien qu'il soit un mécréant, du grand capital, des élites, etc. Fujimori, c'est un immigré. C'est un japonais. En plus, il est bronzé comme les Indiens. L'autre est un blanc, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Indiens au pouvoir en Amérique latine. Il n'y a pas de Noirs au pouvoir. Monsieur Fujimori est en plus un universitaire d'une université de troisième catégorie, rurale. Il ne vient même pas de la grande université de Lima, la capitale du Pérou. Donc c'est un personnage politique de deuxième classe, pourrions-nous dire, mais qui s'allie avec deux vice-présidents, candidats à la vice-présidence. L'un, c'est le dirigeant des petits commerçants ambulants, ça s'appelait Saint-Romain, petit dirigeant de, le dirigeant des petits commerçants ambulants. On ne les connaît pas ici en France, mais ce sont ces vendeurs à la sauvette, si vous voulez, qu'on voit à Paris, ou de, etc., n'est-ce pas, dans les rues. Hein, ça, c'est les petits vendeurs de rue. C'est le dirigeant de ces petits vendeurs de rue. Et l'autre, c'est un pasteur baptiste qui s'appelle Garcia et qui est le représentant des évangéliques et des pentecôtistes. Et qui va faire la campagne de M. Fujimori ? Eh bien, ce sont les forces évangéliques, parce que M. Fujimori n'a pas un sou pour sa campagne. M. Vargas Llosa a des millions. L'autre n'a rien. Il part de rien avec des gens qui n'ont rien. Et figurez-vous, grande surprise, au premier tour des élections, M. Fujimori arrive en tête et M. Vargas Llosa est le deuxième. Et au deuxième tour, M. Fujimori a gagné grâce à la force de l'appui de ses forces évangélico-pentecôtistes qui arrivent à mettre 50 députés au Parlement péruvien au même moment. Au même moment, en 1986, au Brésil, l'Assemblée constituante brésilienne mène à des élections parlementaires. Arrivent dans le Parlement brésilien 33 députés évangélico-pentecôtistes. Et on pensait que c'était qu'un feu de paille, que ceci allait s'achever, parce que c'était des gens qui certains sont corrompus, comme les autres, n'est-ce pas ? Mais donc, on pensait que ça allait évidemment disparaître. Aujourd'hui même, après les élections de 2010, eh bien, il y a 68 députés évangélico-pentecôtistes au Parlement brésilien qui constituent une bancada evangélica, c'est-à-dire un groupe de pression, un lobby pentecôtiste au sein du Parlement. Lors des élections de 2010, il y avait 3 candidats au Brésil à l'élection présidentielle. La première, c'était une femme, Dilma Rousseff. Elle est au pouvoir aujourd'hui. C'était l'héritière de Lula. Vous avez l'image de Lula, n'est-ce pas ? Le Parti des travailleurs. Le deuxième candidat était un homme, José Serra, de la social-démocratie libérale. Troisième candidat était une femme, Marina da Silva. Et puis il y avait d'autres candidats qui suivaient. Or, lors des élections, au premier tour, eh bien, Marina da Silva est arrivée précisément en troisième position, avec 20% d'appui au niveau national. Or, Marina da Silva était une noire, une femme, une écologiste et une pentecôtiste. Tout pour déplaire. Vous voyez ? Et elle est arrivée en troisième position. Ceci vous indique, avec l'appui des Assemblées de Dieu et des forces évangélico-pentecôtistes, donc au Brésil. C'est pour vous dire la force que constitue actuellement, d'un point de vue politique, je pourrais démultiplier les exemples. Ce sont que quelques exemples, je n'ai pas le temps de développer cela, mais c'est partout que, en quelque sorte, d'une part, les partis politiques évangéliques, les acteurs politiques évangéliques se profilent. Alors, ils ne sont pas déterminants dans les politiques sociales. Ils sont très conservateurs même d'un point de vue de la morale sociale. Ils sont contre l'avortement. Ils sont contre l'homosexualité. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils sont contre tout ce qui est sexualité, si vous voulez. Et donc, hors la sexualité dite reproductive. Et donc, on a des acteurs qui sont très réactionnaires d'un point de vue moral, si vous voulez, de l'éthique sociale, qui sont même souvent peuvent être de droite ou de gauche, mais enfin qui n'ont pas de principes politiques très établis, mais qui jouent sur les rivalités entre la droite et la gauche pour se positionner et être en quelque sorte les arbitres dans les conflits politiques. Donc c'est ce rôle d'arbitre qu'ils ont acquis. Alors vous me direz, mais à quoi ça sert tout ça, puisqu'ils n'ont pas d'idéologie, ils ne savent pas où ils vont ? Eh bien, ça sert à ce que, d'abord, ils soient reconnus comme acteurs sociaux. Et je terminerai là-dessus. En quelque sorte, le pentecôtisme est en train de permettre à des marginaux, à des pauvres, de passer de citoyens de deuxième classe à citoyens de première classe. Et à être reconnus comme des acteurs sociaux. Si vous voulez, les pentecôtistes qui votent pour des pentecôtistes, qui sont députés, qui sont présidents, etc., quand ils voient leurs députés arriver, eh bien, ils se reconnaissent dans ces acteurs sociaux, qui sont des leurs, et qui ne sont pas des classes moyennes blanches ou des classes moyennes ou des élites. Et donc, on a là un mouvement social, n'est-ce pas, et religieux à la fois, bien entendu, mais qui a une force sociale, de reconnaissance sociale, si vous voulez, des bases qu'il mobilise. Et puis, par ailleurs, n'oublions pas que ce pentecôtisme est jeune, d'une certaine manière, et que les choses évoluent très rapidement. Les analphabètes, au travers du pentecôtisme, s'alphabétisent, comme Marina da Silva, cette noire originaire d'un État totalement marginalisé, devenue candidate à la présidence de la République, née dans une famille de 11 enfants, dans des zones défavorisées, qui, par sa volonté, est passée par l'université et qui est devenue pentecôtiste en même temps. S'est élevée socialement par la volonté spirituelle, culturelle, religieuse, enfin, etc. Je pourrais vous citer d'autres exemples. Au Brésil, une autre da Silva, Bénédicte, celle-là, aussi noire, qui, dans les années 90, est devenue vice-gouverneur de l'État de Rio de Janeiro. De même schéma, sortie des favelles de Rio, des femmes. Donc je vous dis, le pentecôtisme n'est pas qu'une religion d'hommes, c'est une religion d'élite féminine qui arrive au pouvoir, et des femmes qui n'auraient jamais pu arriver dans des structures de décision en passant par les partis traditionnels ou en passant par l'Église catholique, enfin, etc. Donc voilà, je termine avec cela parce que il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais je termine peut-être, arrivons au plan que j'avais proposé là, je termine en soulignant au fond la force de cette religion populaire de l'émotion qu'est le pentecôtisme et religion populaire de l'émotion qui est un christianisme de l'émotion pour moi plus qu'un protestantisme. Le pentecôtisme en Amérique latine n'est pas porteur des valeurs protestantes de Calvin, de Luther, de l'éthique protestante, etc. Mais il est porteur d'un christianisme évangélique lié à ces types d'expressions religieuses dont j'ai parlé, qui sont excessivement malléables, flexibles, qui prêtent à toutes sortes d'accommodements, n'est-ce pas, aussi, parce que les lectures se font au travers des prismes, des traditions religieuses populaires, catholiques, hein, entre autres, quant à l'exorcisme, quant à la thaumaturgie, quant au miracle. Le pentecôtisme met l'accent sur le miracle, bien entendu, comme le catholicisme. Il est très proche de ce point de vue-là. Donc on a plus affaire à un christianisme de l'émotion, à une religion populaire de l'émotion, mais qui, je vous l'ai signalé, est en train d'entraîner les masses derrière elle et qui nous mène certainement vers de nouveaux horizons pour l'Amérique latine, inattendus, comme ce mouvement-là l'a été il y a 50 ans sur la scène religieuse latino-américaine. Je termine donc avec ceci, en vous remerciant de m'avoir écouté si sagement.
Alors, merci à vous, Monsieur Bastion, pour cette analyse de sociologie historique des développements, des mutations du monde religieux en Amérique latine. Et comme vous l'avez dit en conclusion, au fond, je crois même dans votre livre, vous évoquez, il me semble, vous employez l'expression d'une sortie du protestantisme de la part de
Là, il y a un micro, hein.
Oui, là, il y a un micro pour les éventuels questionneurs. Oui.
Voilà.
Voilà, alors, qui a des questions ? Vous pouvez une question pour commencer. Stéphane, parle fort.
Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de similaire en Europe ?
Alors. C'est une question intéressante parce qu'évidemment, je vous l'ai dit, ces mouvements religieux ne sont pas que des mouvements latino-américains, mais également avec des développements et des perspectives internationales. De plus, nous sommes, depuis les années 1989, dans ce qu'on appelle la globalisation, hein, ou la mondialisation de tout, des idées, des pratiques, etc. Et donc, le religieux circule. Et c'est vrai que ces mouvements religieux latino-américains sont présents en Europe. Alors, je peux vous citer, par exemple, l'Église universelle du Royaume de Dieu, brésilienne, qui est à Paris, qui est à Marseille, qui est à Londres, en Espagne, au Portugal, etc. En Roumanie même, etc., dans les pays de l'Est. Et nous avons bien d'autres églises qui circulent de la même manière. Sans compter que, en Europe, nous avons aujourd'hui les mêmes phénomènes migratoires, avec des populations qui arrivent d'un peu partout et qui, vous le savez, se structurent d'une manière ou d'une autre, non seulement par origine nationale, mais aussi par origine confessionnelle, avec l'émergence d'églises de tout type qui sont des églises que nous appelons ethniques, parce qu'elles sont transplantées par des migrants provenus de différents pays que nous voyons comme des ethnies, qui sont des nations, la plupart. Alors, est-ce que ceci va entraîner un effet boule de neige et on aurait une reconquête chrétienne de l'Europe au travers des pentecôtismes? Alors, je crois qu'en aucune manière. Parce que ce qui différencie l'Amérique latine et l'Europe, c'est que l'Amérique latine n'est pas un espace social sécularisé et ni laïcisé. La religion et la politique sont toujours liées. Et surtout, c'est un ensemble de pays où les différences sociales sont excessives et où les pauvres constituent évidemment une partie importante de la société, les laissés pour compte. En Europe, nous sommes dans des sociétés où il y a bien sûr des pauvres, mais où le filet social permet une certaine éradication de l'extrême pauvreté, en tout cas. Et par conséquent, l'Europe est également un espace où les lumières ont pénétré, où les élites et les classes moyennes sont alphabétisées, où les masses sont alphabétisées. Contrairement à l'Amérique latine, où une partie des masses est semi-analphabète. Nous sommes dans des sociétés éduquées, où les gens réfléchissent par eux-mêmes, font leurs choix, et donc sont moins manipulables, ou peuvent moins se laisser entraîner par des mouvements de ce type, et n'ont pas besoin de chercher des espaces de solidarité, comme c'est le cas dans les mouvements pentecôtistes latino-américains. Parce que, je vous le dis, la solidarité se joue au niveau du filet social. Hein, vous avez toutes les médiations mises en place par l'État social pour précisément assurer que tout un chacun peut avoir accès à la sécurité sociale, par exemple, et donc à un médecin. Même s'il n'a rien, il peut avoir des soins médicaux nécessaires. Donc il y a peu de chances que l'Europe se pentecôtise, si ce n'est que nous avons le mouvement des églises ethniques qui se développe, donc, et qui entre en rivalité, je dirais, avec les églises autochtones. Ceci se transparaît très clairement en France avec ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, où on voit les églises africaines arriver, avec des pratiques qui, justement, sont plutôt des pratiques de sortie du protestantisme que d'entrée dans le protestantisme. Mon collègue Sébastien Fatt a analysé cela de manière, je crois, assez pertinente, et bien que mon hypothèse de sortie du protestantisme que vous avez citée pour l'Amérique latine paraissait tout à fait hypothétique pour l'Europe, actuellement, des chercheurs commencent à s'interroger sur les pratiques africaines de ces églises importées qui, précisément, ont recours à des traditions afro-religieuses qui détonnent par rapport, évidemment, l'héritage religieux, en tout cas protestant, européen. Donc, ceci se produit, mais à la marge, je dirais, et dans des sociabilités excessivement limitées. Le pentecôtisme, au fond, n'est pas suffisamment armé pour répondre aux classes moyennes éduquées, pour répondre aux inquiétudes, raisonnées. Hein, et donc reste un mouvement populaire, mais encore dans les masses déchristianisées, européennes, excessivement marginales.
Parce que, si on a vu déjà des manifestations
Tout à fait. Alors, j'ai pas eu le temps. Je vous ai dit que on assistait à une pentecôtisation des églises historiques, dont le catholicisme. Et le catholicisme, vous le savez bien, a combattu, le catholicisme latino-américain a combattu dans les années 70 la théologie de la libération. C'était Jean-Paul II en particulier, à partir de 79, a mené une lutte implacable contre la subversion socialiste, si vous voulez, dans l'Église catholique au travers de cette théologie de la libération et de la mobilisation des masses populaires pour amener l'Amérique latine catholique, donc pour amener les masses populaires catholiques à collaborer à la révolution socialiste. Mais ceci n'a été... Ça a été très facile pour Jean-Paul II de détruire cette théologie. Il a suffi de condamner les intellectuels, de les empêcher de parler, de les réduire au silence, donc comme ça a été le cas de Leonardo Boff, un dominicain brésilien qui a accepté de se taire pendant un an, en 1984 par exemple. En revanche, le clergé catholique et les élites catholiques, les autorités catholiques n'ont rien pu faire face au pentecôtisme. Rien pu faire d'autre que de se pentecôtiser. Parce que il n'y avait pas d'interlocuteur théologique. Il n'y avait pas d'interlocuteur structuré. C'est une atomisation de groupe, je vous l'ai déjà dit. Et c'est une religion populaire. Or, la religion populaire qui a toujours existé en Amérique latine jusqu'à aujourd'hui était une religiosité qui était subalterne à la religiosité catholique. C'est-à-dire que les groupes afro-brésiliens, par exemple, que nous avons vus, ont tous des saints catholiques dans leur panthéon de divinité. Ou les Indiens qui pratiquent le chamanisme ont toujours des médiations catholiques dans leurs pratiques chamaniques. Donc ces pratiques religieuses ont été tolérées par l'Église parce qu'elles ne la menaçaient pas. Elles n'étaient pas en concurrence, en quelque sorte. Elles ne touchaient que des pratiques pré-chrétiennes pour l'Église qui devaient être épurées et qui, à la longue, par la christianisation, conduiraient à l'insertion de ces marginaux religieux dans l'univers catholique. Or, avec le pentecôtisme, c'est tout le contraire qui s'est passé. Là, l'Église s'est pour la première fois affrontée à des leaders religieux populaires qui combattaient l'Église et qui l'attaquaient frontalement. Et donc, face à cette menace, dans les années 70, alors que le pentecôtisme était encore marginal, eh bien, l'Église a commencé à adopter ce que l'on appelle le renouveau charismatique catholique ici en France. Ce renouveau charismatique est une réponse catholique au niveau international, d'ailleurs pas seulement en France, mais d'abord aux États-Unis. Et il s'est transplanté en Amérique latine, telle manière qu'aujourd'hui, le pentecôtisme est dans l'Église catholique latino-américaine. Mais c'est un cheval de Troie. C'est-à-dire que cette pentecôtisation aussi amène à ce qu'il y ait plus de catholiques qui sortent du catholicisme parce qu'ils sont pentecôtistes et parce qu'ils veulent se libérer de la tutelle des évêques. Pour vous montrer comment le catholicisme est devenu pentecôtiste en partie, vous avez des curés aujourd'hui pentecôtistes, avec des pratiques pentecôtistes, qui font l'exorcisme, qui font la thaumaturgie, qui parlent en langue, qui utilisent les mêmes musiques et hymnes que les pentecôtistes. Il y en a un très connu au Brésil, à Rio de Janeiro, j'ai plus son nom en tête maintenant, mais qui était dans les années 90 un curé jeune, et que le pape Benoît XVI a reçu lorsqu'il est venu en 2007 ou 6, je ne sais plus, au Brésil précisément. Et donc, c'est pour vous dire que ces curés-là qui sont des curés qui utilisent leur charisme, qui ont une autorité charismatique et plus l'autorité simplement bureaucratique du prêtre dans sa fonction bureaucratique, eh bien, sont sollicités par l'Église précisément pour freiner l'hémorragie pentecôtiste au sein des masses catholiques. Donc il y a une pentecôtisation en partie d'une partie du catholicisme qui est tout à fait intéressante. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que Benoît XVI, quand il est venu au Brésil, est venu pour une assemblée des évêques dont le thème était le Saint-Esprit, justement. Parce que l'Église essaie de répondre à cette hémorragie et à cette transformation radicale de la réalité religieuse latino-américaine. Maintenant, l'Église catholique, attention, n'est pas sur le déclin en Amérique latine, comme certains chercheurs laisse entendre, de manière très superficielle, elle reste hégémonique, elle reste une force sociale de premier plan, parce qu'elle a le lien direct avec l'État par le Vatican, au niveau diplomatique, et parce qu'elle est encore capable de mobiliser les élites. Les élites sont catholiques, les universités catholiques privées fleurissent, et le catholicisme reste une force sociale par le haut. Mais par le bas, il est en train de perdre une partie des masses. Et donc, il perd une partie de son influence populaire. Mais il ne perd pas son influence sur la société en général. Mais maintenant, il se trouve affronté aux pentecôtistes qui, eux-mêmes, commencent à créer des universités pentecôtistes ou des universités évangéliques qui, même si elles sont de deuxième classe, reflètent des stratégies de pouvoir intellectuel et de pouvoir politique, mais aussi de pouvoir religieux. Donc, certainement, la réponse catholique au pentecôtisme est tout à fait limitée et elle se joue, au fond, dans sa capacité à réellement contrôler les masses au travers d'une pratique religieuse qui lui est étrangère, en quelque sorte. Mais l'Église catholique contrôle les masses aussi par d'autres pratiques dévotionnelles. Les pèlerinages, je l'ai déjà dit, vers les crises du miracle, vers les vierges nationales. Donc le national-catholicisme reste encore structurant, évidemment, pour une partie importante de la population, puisqu'on a vu au Brésil, si vous voulez, si on a 22% d'évangélico-pentecôtistes, je vous ai dit, sur les 190 millions de Brésiliens, il y a 123 millions de catholiques, c'est quand même 64% de la population. 64%. Mais en 1950, 98% des Brésiliens étaient catholiques. Donc un demi-siècle plus tard, il y a une érosion réelle du catholicisme au point de vue numérique que traduisent ces chiffres et ces statistiques. Oui ?
Est-ce que vous pouvez dire un mot sur ce que vous appelez la sortie du protestantisme ?
Sortie du protestantisme dans le sens où ces pentecôtistes ne se rattachent pas à la réforme luthérienne et calviniste. Ils ne sont pas informés par, si vous voulez, la théologie et les pratiques religieuses de la réforme. Ils sont informés à la fois par une pratique évangélique, hein, qui provient, je le répète, de la tradition biblique, sans aucun doute, mais en même temps par les pratiques religieuses populaires qui viennent du chamanisme ou qui viennent des pratiques afro-américaines et d'autres pratiques encore, liées à l'exorcisme et à la thaumaturgie. D'ailleurs, souvent, les chamans se convertissent en pasteurs pentecôtistes. C'est pas par hasard. Donc ce pentecôtisme, si vous voulez, est très éloigné de notre protestantisme historique, d'un point de vue de sa trajectoire, et du point de vue de ses intérêts même, je dirais. Par ailleurs, il est très mimétique avec le catholicisme, car les hiérarchies pentecôtistes sont épiscopales. Les mouvements pentecôtistes ont des formes de contrôle religieux qui sont très mimétiques du système catholique. Donc ce ne sont pas des mouvements démocratiques, hein, contrairement, bien que ils cherchent à renverser les titres de pouvoir traditionnels. Mais en fin de compte, les pasteurs pentecôtistes sont des pasteurs patrons, comme la Livre d'Épinay l'a montré. Des pasteurs patrons dans les formes d'autorité typiques des sociétés traditionnelles latino-américaines. Donc on n'a pas de principe protestant. Même s'il y a le sacerdoce universel n'est pas dans un type de régime parlementaire, comme le sont les consistoires réformés, les assemblées de tout type, presbytériennes, ou les conventions qu'on connaît chez les méthodistes et d'autres groupes, n'est-ce pas ? Donc il n'y a pas d'exercice démocratique du pouvoir, de telle manière que quand quelqu'un s'oppose au pouvoir dans une société pentecôtiste, eh bien il crée une nouvelle secte pentecôtiste, un nouveau groupe pentecôtiste. Les conflits de pouvoir se résolvent toujours par la rupture. Et donc, le pentecôtisme est scissipare. Il se scinde constamment en mouvement, précisément parce qu'il n'y a pas de structure démocratique. Donc il n'y a pas de sacerdoce universel dans le sens d'une sorte d'égalité réelle et de démocratie dans les systèmes de pouvoir ecclésiaux. Donc je dirais, ces masses semi-analphabètes pentecôtistes, elles ne savent pas qui est Luther. Elles ne savent pas qui est Calvin. J'ai eu l'occasion de mener une enquête au Costa Rica, précisément qui renvoyait à ceci en posant les questions. Quel est pour vous le personnage religieux le plus important dans votre vie? Eh bien, Jésus-Christ apparaissait bien évidemment en tête, mais pas en tête, mais enfin en bonne position, mais Calvin et Luther étaient ignorés, tout simplement. Voilà. Donc, il n'y a pas d'articulation. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en ait pas dans certains groupes pentecôtistes, sans doute, mais en général. Et puis, par ailleurs, quelque chose que je n'ai pas souligné, c'est que les pentecôtismes sont complexes. Parce que je vous ai déjà dit, je vous ai parlé du pentecôtisme dominant, si vous voulez, le pentecôtisme issu des protestantismes historiques. Mais il y a l'autre pentecôtisme que je viens d'évoquer, c'est le pentecôtisme dont nous avons parlé, catholique. Il est pentecôtiste aussi, c'est un pentecôtisme. Le renouveau charismatique catholique, c'est un pentecôtisme aussi. Et puis il y a un troisième pentecôtisme en Amérique latine, qui est un pentecôtisme syncrétique, qui est composé de mouvements religieux où la tradition chrétienne est au même plan que la tradition mise en place par le leader religieux latino-américain. Alors ces groupes, je peux les citer. Par exemple, il y a le groupe qui s'appelle la Lumière du Monde au Mexique. La Lumière du Monde est une église créée en 1950 à peu près dans une grande ville du Mexique qui s'appelle Guadalajara par un ouvrier agricole qui s'est vu prophète et qui a pris le nom d'Aaron. Et aujourd'hui, cette église est de 2 à 3 millions de membres avec un centre à Guadalajara très important. Et Aaron étant décédé dans les années 80, il a sa tombe dans l'église. Et donc les pratiques religieuses de ce groupe, pentecôtiste, tournent autour des fêtes bibliques, mais aussi des anniversaires autour d'Aaron, qui est devenu le saint de ce groupe. Voyez. Donc là, on a un mouvement syncrétique de religion populaire, encore une fois, mais qui a très peu à voir avec le protestantisme tel que nous l'entendons. Très bonne question, parce que précisément, très longtemps, elles ont été suspectées, comme je vous l'ai dit, d'être l'avant-garde idéologique des églises et des politiques nord-américains, surtout durant la guerre froide, n'est-ce pas, de Reagan, par exemple, etc. Donc, et c'est toujours l'accusation catholique suspectant que ces églises-là, en fin de compte, sont une protestantisation de l'Amérique latine, et donc la pénétration des idéologies et des valeurs nord-américaines dans les sociétés latino-américaines. Et donc, de ce point de vue-là, les pentecôtistes seraient destructeurs des valeurs et des identités nationales et des valeurs et des identités latino-américaines. D'un point de vue sociologique, évidemment, ceci est une pure théorie de la conspiration. Il n'en est rien du tout. Les pentecôtistes, contrairement au protestantisme historique dont nous avons parlé au départ, n'est-ce pas, qui eux étaient financés par les églises nord-américaines, sont des mouvements qui sont autofinancés. Ils ne dépendent d'aucune église extérieure. La richesse qu'ils ont, c'est les fidèles qui les donnent, à cause des miracles. Parce qu'un miracle, ça se paye. Hein, toujours. Vous êtes bien d'accord. C'est comme quand vous allez voir Madame Soleil, si elle doit vous dire ce que vous aurez demain, eh bien, vous devez lui laisser 100 euros. Hein, à Elisabeth Tessier. C'est ça, le miracle. C'est d'avoir payé. Et ça, c'est le do ou des de la religion. Le pentecôtisme est une religion comme une autre. Et le fait de payer assure la grâce, l'avenue de l'esprit, l'enrichissement, la théologie de la prospérité, etc. Mais donc, pour en revenir à la question de l'influence américaine, il n'y a pas d'influence américaine directe. Mais bien sûr, il y a des influences indirectes ou des influences qui passent par les modèles pentecôtistes transnationaux. Mais par rapport au pouvoir local, endogène des pasteurs et des groupes locaux, c'est tout à fait secondaire. Et il n'y en a pas plus que dans l'Église catholique. En tout cas, je dirais l'Église catholique est beaucoup plus une religion sous influence étrangère au travers de Ratzinger, de Benoît XVI et les autorités vaticanes que ces églises pentecôtistes qui n'ont pas de chef vatican derrière eux, qui n'ont pas de chef presbytérien à Genève ou à New York, n'est-ce pas, derrière eux, qui sont des autodidactes religieux, qui sont des gens sortis d'en bas, qui ont construit leur pouvoir religieux et qui vont le vendre à personne. Donc, cette hypothèse-là, vous pouvez l'abandonner totalement. D'autant plus que, comme je vous le dis, ce ne sont pas des protestantismes stricto sensu, ce sont des mouvements religieux autochtones, un christianisme de l'émotion autochtone, et qui se développent selon des logiques autochtones. Ce qui fait sa force. Parce que ce qui est importé ne prospère pas en général, ça reste dans des sphères sociales excessivement réduites, alors que ce mouvement-là est un mouvement de masse, précisément parce qu'il surgit des masses, et non pas des États-Unis ou d'où que ce soit, hein, de Moscou ou de New York ou de Paris ou de Genève. Mais c'est une très bonne question parce que, en général, précisément, l'image qu'on se fait, c'est celle de la manipulation. Et il y a eu en Sorbonne des travaux dans les années 70 de sociologues, évidemment, qui allaient dans le sens de la conspiration. Mais ceux-ci se sont tus. Aujourd'hui, c'est fini. Plus personne n'ose en parler, hein, parce que c'est une hypothèse ridicule. Et certains disaient que les missionnaires même allaient dans les zones les plus éloignées parce qu'il y avait du pétrole. Ce qui est absurde.
Il y avait aussi un thème que vous avez développé en présentant votre sujet. C'est par rapport aux personnes qui sont dans ces pays, qui désirent avoir une réussite sociale. Dans nos pays, plutôt, c'est le déni où on se moque des choses saintes à cause de la société qu'on a. Et ce qui est surprenant, c'est que enfin, toutes ces affaires, ça peut créer, en fin de compte, c'est un business, c'est une manière d'être, ça peut être une réussite. Quelque part, ça peut paraître formidable, mais en même temps, c'est sans Dieu, quoi. C'est quelque part, c'est dans la forme, mais pas dans le fond. C'est ce qui me semble comprendre.
En Amérique latine, je ne dirais pas cela. Non, parce que je ne mets pas en doute la foi et l'énergie de ces leaders. Hein. Il y a réellement une inspiration, je dirais. Hein. Si on le prend d'un point de vue de ce qui se passe au niveau des individus, il y a une transformation. Je n'ai pas signalé, et heureusement que vous me posez cette question, le fait que cette transformation passe, par exemple, je l'ai dit, la sortie de la violence, l'univers de la violence, je vous ai dit cela. Mais l'univers de la violence, c'est l'alcoolisme, c'est la drogue, c'est la prostitution. Donc, je veux dire, c'est des gens qui sont régénérés. Les femmes en particulier, qui sont battues par leur mari ou qui sont délaissées, qui sont des mères célibataires, qui sont obligées de survivre avec des enfants qu'on leur a faits et dont le père ne s'occupe plus, n'est-ce pas ? Eh bien, dans ces espaces de rédemption sociale que sont les communautés pentecôtistes, ces individus retrouvent une énergie. Mais cette énergie, elle est dans la foi qu'ils ont ou qu'on leur inspire, et que leur inspirent les évangiles, entre autres, et le Christ. Donc, je dirais, non, c'est une question de... C'est une transformation de la personne qui la mobilise, en quelque sorte, et fait passer des acteurs qui étaient passifs face à la société en acteurs actifs. Si vous voulez, l'acteur passif, c'est celui qui allait vers la Vierge de la Guadeloupe demander le miracle. Mais maintenant, l'acteur est qui restait, en fin de compte, à sa place, parce que rien ne changeait. Hein, en ayant demandé le miracle à la Vierge, en revenant chez elle, cette personne-là, n'avait aucun changement dans sa vie pratique. Dans le pentecôtisme, c'est le contraire. Demande le miracle au pasteur, mais en même temps, l'énergie spirituelle et les ruptures au niveau des valeurs avec les pratiques religieuses et sociales liées à l'alcoolisme, etc., entraînent une mobilité, une transformation, une réussite, si vous voulez, ou une amélioration de la situation matérielle et non seulement spirituelle de ces populations. Donc c'est un changement de fond. Et certains... Alors la dérive, c'est quand ces sociétés-là mettent l'accent sur la théologie de la prospérité. Parce que ceux qui prospèrent, ce sont les pasteurs qui s'enrichissent et qui sont certains des millionnaires aujourd'hui. Donc il y a tout ce rapport à l'argent aussi qui serait important d'analyser. Et à l'entrepreneuriat religieux qui fait qu'on est dans un système de concurrence religieuse et dans un marché du religieux également, avec des charlatans. Certains font des miracles parce que ça rapporte pour eux, pour leur famille, dans la mesure où les églises sont des propriétés privées. Et donc j'ai rencontré, moi, des pasteurs, évidemment, qui pouvaient me dire « J'étais cordonnier de rue et maintenant je suis à la tête d'une église de 5000 personnes avec une Mercedes ». Dieu m'a tout donné, enfin, etc., n'est-ce pas ? Mais oui. Et puis, c'est lui qui fait l'échec pour l'Église. Hein. Et les 5000 personnes payent chaque dimanche. Hein, ils mettent 10 euros. 5000 fois 10 euros, vous voyez, ça fait déjà 50 000 euros par dimanche. Et comme ils font pratiquement un culte par jour, quand ils arrivent à mobiliser ceci, ben ça fait les millions hein, en quelques mois. En plus, non déclarés aux impôts. Hein, et certains font du trafic vers les États-Unis, alors là, pour rapatrier les fonds dont ils disposent dans leur compte en banque aux États-Unis. Mais bon, ceci, c'est secondaire par rapport à ce que j'essaie d'expliquer. Parce qu'évidemment, il y a des dérives mafieuses partout. Hein, il y a des corrompus partout. Je ne dis pas que la majorité sont des corrompus. Il y a des corrompus, mais le mouvement social est un mouvement de sortie de la misère vers la décence, vers la régénération de l'individu, vers sa reconnaissance comme acteur politique et social, comme citoyen de première catégorie et pas de deuxième catégorie, et comme régénéré par le Christ, par l'Esprit, etc. Donc voilà ce que l'on peut dire là-dessus, et c'est ce qui explique la force de ce mouvement. Et je le répète, sa force qui va croissant, qui n'est pas en train de s'estomper encore actuellement, malgré l'énorme parcours qui vient de s'accomplir en 50 ans. Voilà, je crois qu'on peut s'arrêter peut-être là.
Oui, juste une question. Vous aviez parlé tout à l'heure d'une expansion de ces mouvements aussi vers l'Asie.
Oui.
Une société plutôt résistante hein, au christianisme en général, à l'évangélisation. Est-ce que cette expansion qualifie, par exemple, le mouvement en Corée, hein, par le réveil, est-ce que cette expansion peut trouver la même réussite qu'elle trouve en Amérique latine, puisque les conditions sociales sont évidemment différentes?
Alors, vous voyez, ça c'est vraiment ce que je dis pour l'Amérique latine. Sur la base de travaux de sociologues, d'anthropologues et autres, on peut le dire pour la Corée. Parce que en Corée, si vous voulez, si j'ai bien compris les choses, les élites sont confucéennes et les masses sont animistes. Et donc, le protestantisme est arrivé là comme mouvement de nouveau des masses animistes, régénérant ces masses. Aujourd'hui, il y a, je crois que c'est 20 ou 30% de la Corée qui est protestante, n'est-ce pas, évangélico-pentecôtiste. Et donc, on a un système assez similaire qui s'est produit. D'ailleurs, une des plus grandes églises coréennes, c'est celle de Yonggi-cho, à Séoul, n'est-ce pas, qui rassemble un million, une paroisse hein, d'un million de membres, et qui a été un modèle d'expansion par le phénomène des cellules, d'encellulement des églises hein, qu'il a développé. Ils sont venus en France, etc. Le modèle s'est importé en France, l'idée de cellules. Comme le cancer, les cellules cancérigènes. Hein, on pénètre dans la société par encellulement cancérigène, si vous voulez. Donc l'évangile cancérigène, on pourrait dire. Bon, je plaisante, mais enfin, c'est une manière d'illustrer. Hein. Et donc, je pense que là encore, il y a les mêmes phénomènes syncrétiques que certains chercheurs ont mis à jour. Mais à la fois, il y a des forces protestantes aussi présentes. Et puis la Corée n'est pas d'Amérique latine, donc il faut expliquer les choses à partir des conditions sociales et politiques du contexte coréen et par la présence américaine et la lutte contre la Corée du Nord, hein, qui a fait que l'adoption de modèles nord-américains, là, ont été beaucoup plus prégnants, je dirais, qu'en Amérique latine. Par ailleurs, un autre espace où le pentecôtisme est en croissance, mais exponentiel, c'est la Chine. J'ai eu l'occasion d'être dans une soutenance de thèse qui était mauvaise, malheureusement, il y a un an, à l'Université de Lyon 2, d'une étudiante qui a eu l'occasion donc, d'aller en Chine et d'observer ce qui se passe dans les mouvements pentecôtistes chinois. On assiste à une expansion, pour l'instant, relativement peu visible, mais tout aussi phénoménale, au sein des masses chinoises. Donc, je dirais, on est sur des... Alors, la seule différence, c'est pour le Japon, où là, apparemment, il n'y a aucune pénétration, c'est tout à fait marginal, etc. Mais pour la Corée et donc la Chine, les choses évoluent d'une manière relativement similaire.